réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Des amis m'ont proposé d'aller faire un trek au Népal, un pays que je ne connais pas et qui me faisait vraiment envie. Je suis donc parti avec trois amis. C'était au milieu du mois d'avril 2015, dans la Tsum Valley. Alors la Tsum Valley au Népal, c'est une vallée assez secrète. Et c'est dans cette vallée que les Népalais recrutent le Dalai Lama, bébé. Et c'est une vallée qui était complètement interdite aux touristes et qui a été ouverte seulement 2 ans avant qu'on y aille. Donc c'était intéressant de rencontrer le peuple népalais d'origine, assez isolé. Donc là, on était à peu près à 2500 mètres. Mais si on additionne les montées et descentes, ça faisait peut-être en effort physique monter 3 fois 1000 mètres dans la journée et redescendre 3 fois 800 mètres ou 900 mètres. En fait, on gagne peu d'altitude, mais ces torrents étant tellement inaccessibles, pour passer, il faut monter dans la montagne et redescendre sur le torrent en permanence. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre ascension. L'ambiance était bonne. Notre ami avait eu la bonne fortune d'amener 2 bouteilles de Ricard et un jambon avec du fromage des Pyrénées. Ça faisait plaisir de pouvoir profiter de ces petits délices. Et on a décidé de redescendre. Finalement, on était arrivé au milieu du chemin. Il fallait redescendre. Donc, on est redescendu tranquillement. Moi, j'étais toujours un petit peu à la traîne. Peut-être le plus vieux de l'équipe ou un peu fatigué aussi par la montée. Donc, j'avais tendance à flâner derrière. J'étais pas vraiment avec les autres. J'étais toujours avec mon Sherpa. Et là, à 11h50, je m'en souviendrai toute ma vie, le monde s'est arrêté de tourner, c'est-à-dire que la Terre s'est mise à trembler d'une manière extraordinaire, horizontalement et verticalement. En une seconde, on réalise que c'est un tremblement de terre. Et puis, d'un seul coup, on dit que c'est un gros tremblement de terre, parce qu'on ne peut pas tenir pratiquement debout. Et là, les cailloux commencent à tomber, et ils tombent de très haut. C'est très difficile de juger combien de temps a duré ce tremblement de terre, parce que d'abord, un tremblement de terre, c'est une secousse assez longue, je dirais peut-être 45 secondes ou une minute, mais il y a beaucoup de répliques derrière qui s'enchaînent presque en continu. On a l'impression que le sol est tout mou et qu'on est complètement ivre, en fait, et ça fait un bruit de tonnerre, en fait. Ça sent très rapidement la poudre, ça sent le silex, ça sent le caillou. Et au bout de ces 45 secondes, ou cette minute, je dirais, les cailloux se mettent à descendre de très haut, parce que les montagnes au-dessus, c'est les monts Ganesh qui sont, je crois, si ma mémoire est bonne, 7000, 7500 mètres. Heureusement, là où on se trouvait, où je me trouvais avec mon Sherpa, qui, entre parenthèses, était autant terrifié que moi, puisqu'il avait tendance à se cacher derrière moi, alors que moi, je voulais me cacher derrière lui, donc c'était assez comique, si on peut dire. Mais les cailloux sont mis à descendre et heureusement, il y avait des grandes herbes ou des grandes fougères ou des plantes comme ça dans la pente au-dessus et on pouvait deviner les cailloux qui descendaient à plusieurs centaines de kilomètres heure et certains étaient assez gros comme 2 ou 3 ballons de rugby par exemple ou de football, vous voyez à peu près la dimension. Donc hors de question d'en prendre un sur la tête ou dans le corps parce que je pense qu'on n'aurait pas survécu. Ça c'est une grosse frayeur et lorsque les cailloux ralentissent un petit peu de tomber, il y a une nouvelle secousse qui prend et ça recommence. On ne pouvait pas bouger, on ne savait pas où se mettre. Le chemin sur lequel on était abrupt, à flanc de montagne, et lui-même risquait de partir, c'est évident. Ça fait entre 60 cm et 1 mètre de large. Et dessous, il y en a pic à peu près de 2000 mètres ou 1500 mètres. Donc c'était très, très angoissant. Les Ganesh au-dessus, un chemin et le torrent en dessous. Bon, là, une première accalmie, on s'est regroupé et on a eu une assez peur puisque quelqu'un a crié. Monique est tombée dans le ravin. Elle a reçu un caillou sur la jambe qui l'a fait basculer dans le vide et elle s'est arrêtée par des buissons. Son mari et le Sherpa d'Orgy sont descendus la chercher, l'ont ressorti par la peau du dos. C'était heureusement pas trop grave. Donc, on a pu reprendre notre chemin. Avec peine et misère, parce que par endroits, le chemin était arraché par des éboulements. Et à nouveau, toutes les heures, toutes les 2 heures, nouvelle secousse, et ça recommençait comme ça jusqu'au soir. dans l'après-midi ou dans la soirée, on est arrivé dans un village qui a été complètement dévasté par le tremblement de terre. Ce village était sur un plateau. Toutes les maisons en pierre sèche étaient écroulées, avec des morts à l'intérieur et des gens qui étaient en train d'essayer de sauver ce qu'ils pouvaient de leur maison. Et étonnamment, tous les habitants étaient dans le champ. Il s'est mis à pleuvoir, à neiger d'ailleurs. Et les enfants continuaient à jouer. Les parents étaient tristes, évidemment, mais très dignes. Pas de cris, pas de pleurs. Et tous ensemble, on a participé, et eux ont participé à construire des espèces d'abris de fortune avec des branches et des toiles de plastique qu'on trouve dans tous ces pays-là. Et la terre continue à trembler. Hein. Toutes les heures, ça tremblait. Et donc la nuit s'est passée comme ça. Je dois avouer humblement qu'il y a une bouteille de pastis qui est passée là ce soir-là, parce qu'on était quand même le moral dans les chaussettes. On a décidé le lendemain matin, notre Sherpa nous a dit qu'il ne faut pas rester ici, parce que là on va y rester pour l'éternité. Il faut descendre, donner l'alerte. Il nous a dit, je crois qu'il y a un téléphone en dessous à l'OCPA. L'OCPA qui est normalement à 2 heures de marche. Mais dans quel état était le chemin, on ne savait pas. Là, c'est la deuxième grosse angoisse qu'il y a eu, c'est que le chemin était en très mauvais état. Et à un moment donné, il y a une secousse, je me souviens plus de l'heure exacte, il y a une grosse secousse à peu près aussi forte que celle de la veille, qui a dit non, ça recommence. Et là, j'ai vu arriver 2 autobus, taille d'un autobus, des cailloux noirs, descendant, mais vraiment à une vitesse vertigineuse, droit dessus, hein, je ne pouvais rien faire, il y a 2 cailloux l'un derrière l'autre. J'ai eu que le temps de me plaquer le visage dans la paroi, où je sens encore la terre dans les narines et dans la bouche, parce que j'étais tellement incrusté dans la terre que j'aurais été plat comme tout ce qui était possible, le plus plat possible, le plus enfoncé possible. Et le premier caillou m'a arraché ma casquette. C'est-à-dire qu'il y a sur les casquettes, vous savez, il y a un bouton pour la couture. Ben, ça m'a fait mal. Il a tapé sur ce bouton et il m'a arraché ma casquette qui est partie dans le vide. Donc il m'est passé à moins de 5 mm du sommet du crâne. Et le deuxième m'est passé au-dessus. Il a rebondi, je ne sais pas sur quoi. Il est passé un peu plus haut. J'ai senti le souffle. Par contre, il a tapé le sol derrière mes chaussures et il a failli m'entraîner parce que j'avais des bâtons de marche. Il a tapé un bâton de marche, il a enlevé le chemin, et heureusement, mon bâton n'est pas parti avec, et j'ai fait basculer en arrière. J'y vais, celui-là, et puis je me retourne, et il n'y avait plus de chemin derrière mes pieds. Donc, il a fallu marcher et descendre, accroché à des branches, à je ne sais pas quoi, pour aller retrouver le chemin de l'autre côté. Et c'est 10 minutes où un faux pas, et vous partez à 1500 mètres en dessous, quoi. Donc, on se dit, si jamais la terre tremble pendant qu'on est en train de traverser ce truc-là, on y a droit. Donc on traversait un par un. On a fini par arriver à un village qui s'appelle L'Okpa, où là, miracle, une maison était restée intacte. C'est le lodge où j'avais couché à l'allée d'ailleurs. Et notre Sherpa a dit, je crois qu'il y a un téléphone là-dedans, téléphone satellite par batterie solaire. On a rencontré 2 Américains qui ont subi le tremblement de terre là et qui n'ont pas bougé. On a eu un contact avec l'ambassade de France qui nous a informé que c'était un tremblement de terre à l'échelle de toute la chaîne himalayenne, ressenti jusqu'en Inde, et qu'il y avait des dizaines de milliers de morts à Katmandou et partout, enfin je ne sais plus combien, mais c'était un chiffre énorme. Et que nous, on n'était pas blessés, donc ils ne pouvaient pas s'occuper de nous de toute manière, parce que l'armée népalaise avait réquisitionné tous les hélicoptères et gérait la crise. On a demandé de prévenir nos familles, ce qui a été fait. On est resté là, on a regardé le chemin pour descendre plus bas, mais là, il n'y avait plus de chemin. C'était vraiment techniquement impossible pour un occidental de descendre ou un non-alpiniste de descendre. On a vu les hélicoptères passer tous les jours. Alors, au début, on sortait dehors avec des chiffons, des serviettes, des trucs agités dans tous les sens. On n'arrivait pratiquement pas à avoir de communication téléphonique, c'était très difficile. Et puis ça servait à rien de toute manière. Alors là, j'ai dit, bon, il faut quand même, si un hélicoptère doit venir, il faudra un endroit pour qu'il se pose. Il n'y en avait pas. Donc on a construit un héliport. On a aplani une plateforme avec des pelles, des pioches, des baramines. Donc on a fait une grande plateforme, assez grande, pour accueillir un hélicoptère. Ça nous a pris 3 jours à peu près. On l'a appelé LOCPA International Airport, Terminal 1. On a peint une pancarte, on a fait une espèce de portique et on a inauguré le LOCPA International Airport. Alors, le quatrième jour, l'Américain vient me voir, il dit « Jean-Pierre, je suis désolé, mais demain matin, j'ai eu l'ambassade américaine, il nous envoie un hélicoptère des forces spéciales américaines de telle et telle société qui viendra nous prendre à 9h, mais il ne peut pas vous prendre vous parce que vous êtes français, il ne prend que des Américains. » Et là, épisode tragicomique, un hélicoptère semble descendre, et finalement se pose sur le LOCPA International Airport. Alors nos deux Américains sautent dedans, et le pilote leur dit « Vous êtes français ?» En français. Non, non, American. Alors descendez, je prends 4 Français. Les Américains sont descendus. Nous, les 4 Français, on s'est précipités dans l'hélicoptère. Mais c'est là une partie, moi, qui m'a beaucoup bouleversé, c'est qu'on n'a pas eu le temps de dire au revoir à personne. On a quitté le navire comme des voleurs, en fait. Je crois que charger l'hélicoptère et décoller, ça a pris 20 secondes. On était assis les uns sur les autres, tassés. On n'a pas de ceinture de sécurité, rien du tout. On s'est jeté dans l'hélico, on est parti. En plus, il fallait partir parce que la météo se dégradait rapidement. La visibilité n'était pas très bonne. Donc l'hélico est descendu sur Katmandou. Ça a pris à peu près 30 ou 40 minutes. Là, on a vu les dégâts. Tous les villages étaient rasés. Et séance émotion où j'en ai pleuré. C'est rare que ça m'arrive, mais là, j'en ai pleuré. En approche de Katmandou, et je reçois un appel d'ici sur FaceTime et je vois mon épouse qui m'appelle. Elle me dit t'es où? Je suis dans l'hélicoptère qui va se poser. Alors là, il y a eu un moment de réseau en l'air, alors qu'on n'avait eu aucune nouvelle depuis 15 jours évidemment. Et ça a été très 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 émouvant pour tout le monde. Donc ma femme a pu assister avec les enfants ici à l'atterrissage à Katmandou en direct. Comme une émission de télévision, c'était incroyable.
Change my- Oh.